monde aujourd'hui, VOA Afrique, présidentielle américaine 2020, édition spéciale.
Frankly, we did win this election.
I'm not here to declare that we've won.
Au micro, Idrissa Seydouja, c'était le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Idrissa Seydouja, en compagnie de Timothée Donangmaï, Jean-Roger Bion et de Georges Léonard Sagnon à la mise en onde. Bonjour à tous et à toutes. L'issue de l'élection du 3 novembre entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden reste incertaine ce matin, tout comme hier, mercredi, 24 heures après le scrutin.
Eh oui, Idrissa, toujours pas de vainqueur. Alors, pour faire le point ce matin, retrouvons tout de suite Jean-Roger Billon. Jean-Roger.
Bonjour Timothée, bonjour Idrissa, bonjour à nos auditeurs. Le compteur VOA marque 253 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden. Le républicain Donald Trump a dans son escarcelle 213 grands électeurs. Étant donné le caractère particulièrement volatile de la situation, nos auditeurs peuvent avoir entendu autre chose ailleurs, mais les résultats donnés par VOA Afrique sont ceux qui ont été dûment consolidés et sur lesquels les esprits s'accordent. Donc il faut retenir 253 pour M. Biden et 213 pour M. Trump. Les médias américains créditent au moment où nous parlons Joe Biden de nouvelles victoires dans deux États clés face à Donald Trump, mais le républicain a engagé dans ses circonscriptions électorales des recours judiciaires. Ces États en question sont le Wisconsin et le Michigan. Si Joe Biden les emportait, comme le disent les médias américains, eh bien, il disposerait de 264 grands électeurs. Dans cette éventualité seulement, il devrait remporter le Nevada avec ses 6 grands électeurs pour atteindre le nombre magique de 270 nécessaires pour être élu président des États-Unis. Mais on n'en est pas là pour l'instant parce que l'équipe de campagne de M. Trump a demandé à la justice américaine un recomptage des suffrages. Je rappelle que pour la Pennsylvanie, le président Trump est leader dans la course. Il y a une situation de ballotage en Géorgie et dans le Nevada. Donc les deux candidats dans la course à la Maison-Blanche conservent leurs chances chacun d'atteindre les 270 grands électeurs.
Les 270 grands électeurs pour être élu président. Merci Jean-Roger Bion. Le président Trump a donc déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'État clé de Pennsylvanie. Son directeur de campagne, Bill Stepien, a déclaré hier dans un communiqué « Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie, mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l'abri des regards et cela doit cesser ». Monsieur Stepien a ajouté, nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence, a-t-il ajouté. Donc.
Par ailleurs, Idrissa, la campagne Trump a saisi la justice dans l'État du Michigan pour suspendre le dépouillement et obtenir un réexamen des bulletins déjà recensés. Bill Stepien a assuré que ses équipes n'avaient pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins de vote, contrairement à ce que prévoient les lois locales. M. Trump a lui-même demandé mercredi de suspendre le dépouillement ou de recompter les bulletins dans 3 États clés où les résultats s'annoncent serrés, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin. Ces 2 derniers États ont été depuis attribués à M. Biden, comme le disait Jean-Roger Bion.
Oui, et M. Stepien a d'abord annoncé vouloir un recomptage des suffrages dans le Wisconsin au motif que des irrégularités ont été rapportées dans plusieurs de ces comtés. Le président est dans la marge qui permet de demander un recomptage et nous allons le faire immédiatement, a-t-il écrit. La campagne Trump a également demandé à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir dans le dépouillement en cours en Pennsylvanie et de se joindre à un recours du Parti républicain de cet État contestant les 3 jours supplémentaires donnés donc à la Pennsylvanie pour compter les voix.
Déjà dans la nuit de mardi à mercredi, alors que se poursuivait le dépouillement, le président Trump était apparu devant ses partisans à la Maison-Blanche pour revendiquer la victoire.
Everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election.
C'est l'une de la Cour suprême des États-Unis pour essayer de stopper ce qu'il avait appelé le vote, se plaignant que ceci est une fraude majeure pour notre nation. Le président américain avait conclu « En ce qui me concerne, j'ai déjà gagné ».
Et son adversaire, Joe Biden, avait auparavant, dans une brève déclaration, appelé à la patience, soulignant que cette décision, c'est-à-dire qui a gagné, appartenait au peuple américain. Et hier, M. Biden a de nouveau parlé, disant à la presse qu'il n'allait pas crier victoire.
« I'm not here to declare that we've won. » But I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes.
Monsieur Biden assure que quand tous les bulletins seront comptés, je cite, nous croyons que nous serons les vainqueurs. Maintenant, il faut compter tous les votes dans les États où l'issue reste incertaine. J'ai confiance.
Ajoutons, Idrissa, que dans un tweet mercredi matin, le président Trump avait écrit « Hier soir, j'avais une bonne avance dans de nombreux États clés, puis un à un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise. » Pour les analystes, M. Trump faisait allusion ici aux bulletins envoyés par courrier et traités lentement par les autorités. Selon eux, ces bulletins viennent majoritairement d'électeurs démocrates.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Édition spéciale présidentielle américaine 2020 sur VOA Afrique.
Pour cet éclairage, pour un éclairage donc sur cette présidentielle américaine 2020 qui tarde à rendre son verdict, il dit ça, j'ai contacté hier soir le professeur Emilio Viano d'American University ici à Washington.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a cette tension, cette drama, cette problème. Nous rappelons l'année 2000 quand il y a eu cette situation entre Al Gore et George Bush à propos de la Floride. Il a duré bien de temps, plus de mois, pour essayer de la décider. Enfin, la Cour suprême des États-Unis, selon certaines opinions, ont donné la victoire à George Bush. Et Al Gore a perdu l'élection pour moins de 60 votes, 50-36. Il a eu une perte très, très dramatique. Mais on n'a pas vraiment analysé ça beaucoup. Dans ce cas ici, on peut voir la réaction de Trump. Et parce qu'on peut bien voir qu'il ne veut pas laisser son poste comme président du pays. Il y a des raisons politiques, mais aussi des raisons personnelles.
Le camp du président Donald Trump a engagé des actions judiciaires contre le décompte du scrutin dans les États du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Comment voyez-vous cette action?
Ce sont des actions pour déstabiliser la situation, pour créer le doute, pour motiver peut-être ceux qui le suivent. Et enfin, c'est une caractéristique personnelle de lui. On sait que, comme homme privé, on peut dire ça, un homme d'affaires, il a utilisé les tribunaux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas toujours vaincu, mais il y a créé une certaine réputation et une certaine peur de lui dans beaucoup de gens qui, à la fin, cédaient à ce qu'il voulait pour éviter le poids d'une procédure devant les tribunaux. Je crois que c'est une partie de drame qu'il veut créer dans le pays. Le doute, la tension, peut-être les théories qu'on a volées de vote, ou la théorie qu'on a peut-être envoyer des votes qui ne sont pas légaux.
Quel pourrait être le rôle de la Cour suprême des États-Unis dans cette élection présidentielle?
La Cour suprême peut avoir naturellement un rôle, comme il a eu dans l'affaire Al Gore et George Bush, mais naturellement, il doit avoir la juridiction pour le faire. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas aucune raison pour la Cour suprême de prendre ce cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause qui est vraiment peut-être d'intérêt dans la Cour suprême. Il parle de peut-être, comme a dit maintenant, sur le cas de Georgia, que quelqu'un a peut-être infiltré 53 votes de citoyennes qui ne pertenaient pas à cette élection. 53, quand il y a des milliers, des millions, ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas une chose qui va arriver à la Cour suprême. Je crois qu'il ne va pas fonctionner pour lui. Naturellement, ça dépend aussi des résultats plus rapides pour certains États, comme on espère maintenant une décision finale sur la Pennsylvanie, par exemple. Ce que ça va passer, si c'est ça, si par exemple Biden est déclaré comme le président pour les prochaines 4 années, je crois que la période entre maintenant et le 20 janvier sera très difficile pour le pays.
Le professeur Emilio Viano d'American University, ici à Washington. Un autre point de vue sur la présidentielle 2020 avec l'avocat Dennis Beaver de Bakersfield dans le sud de la Californie.
La presse, les médias sont tellement contre Trump. Et je pense que même les compagnies les compagnies de sondage, qu'ils sont également, ils ont été mordus par la même propagande, par les grandes stations de télévision, les networks, qui sont carrément contre Trump. Et donc peut-être c'est un mensonge, ou éventuellement, quand ils posent des questions, on t'appelle. Monsieur, vous allez voter pour qui? Et souvent, on a l'impression que le mec qui répond dit pas la vérité. Ou bien il dit ce que cette personne, il pense, veut entendre.
Le camp du président Trump a engagé des actions judiciaires contre le dépouillement du scrutin dans 3 États. Comment s'explique cette démarche du camp du président?
Trump pense, et bien d'autres pense aussi qu'il y avait des problèmes, qu'il y a des problèmes quand il s'agit de compter des voix. Et donc, éventuellement, ils vont intenter une action, ou ils ont déjà peut-être intenté des actions pour que un tribunal ou des tribunaux regardent ce qui se passe. Et dans les États qui déterminent le résultat, éventuellement. Et ça peut aller à notre Cour suprême. Il y a une grande possibilité. Mais si Biden, s'il gagne par un chiffre énorme, même avec ou sans ces États qui ne changeraient rien, peut-être Trump va dire « Ok, ça y est, j'ai perdu ».
Le président Trump a parfois laissé planer le doute quant à l'idée d'accepter une éventuelle défaite face à l'ancien vice-président Joe Biden. Est-ce que cela ne va pas retarder le dénouement de cette présidentielle?
Je crois, oui. Il a implanté des doutes à gauche et à droite depuis des mois. Et donc, quand on entend quelque chose comme ça, souvent, on a l'impression de penser peut-être c'est vrai, peut-être il y a un problème. Et maintenant, peut-être oui, il y a des problèmes.
Une chose est sûre, cette présidentielle a montré que les Américains sont profondément divisés Comment vont-ils surmonter ce problème?
Tu poses une bonne question. À travers notre histoire, notre démocratie a fonctionné, a bien fonctionné, même avec notre guerre civile. J'ai beaucoup de confiance dans le pays, dans les Américains, les mecs comme moi, toute ma vie en Californie, jamais vécu dans un autre pays. J'ai appris votre langue ici en Californie. J'ai beaucoup de confiance. Je fais beaucoup de confiance dans mon pays, dans notre avec notre démocratie. On va survivre, on va surmonter ces problèmes en dépit qui habite la Maison-Blanche.
L'avocat Dennis Beaver de Bakersfield dans le sud de la Californie.
Retrouvons à présent en ligne de Bellingham dans l'état de Washington sur la côte ouest des États-Unis le professeur Edgar Colley. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors professeur, nous sommes le 5 novembre et nous attendons toujours de connaître le prochain président des États-Unis.
Et effectivement, je crois que ce n'est pas nécessairement une surprise. On s'y attendait avec tout ce qui s'est passé comme retard, avec la COVID-19 qui a plus ou moins chamboulé le déroulement traditionnel des élections. Et donc, nous avons encore des États qui continuent le dépouillement des votes. Et bien entendu, il faudra, comme on l'a dit hier et les jours précédents, peut-être demain, et qui sait, vendredi, surtout la Pennsylvanie a déjà mis en place un système qui dit « nous pourrons ne pas être prêts avant vendredi ». Et donc, c'est toujours dans l'attente. Et je crois que la situation actuelle, n'est-ce pas, nous pousse à être patients pour voir dans les prochains jours qui sera déclaré vainqueur.
Professeur Edwissa Seludia, ici avec vous, je voudrais savoir comment vous évaluez l'atmosphère actuelle après, enfin, on est 48 heures après cette élection présidentielle.
Effectivement, il y a une sorte de tout le monde attend, tout le monde est anxieux, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et bien entendu, le discours du président Donald Trump n'est pas très rassurant. Il a déjà saisi la justice pour arrêter le décompte, le dépouillement des voix dans le Michigan, c'est un peu trop tard, la Pennsylvanie, etc. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui m'inquiète davantage, c'est va-t-il accepter les résultats finaux tels qu'ils seront déclarés par les différents États? Vu que le scrutin est très serré, et comme le disait notre collègue tout à l'heure, pendant des mois, le président Trump a laissé planer le doute qu'il ne pourrait pas accepter les résultats puisqu'il pense déjà qu'il y aurait une fraude à travers le vote par correspondance. Alors évidemment, tout le monde attend, il n'y a pas eu d'incident pendant le déroulement du scrutin hier. Espérons que les gens vont rester dans le calme et accepter les décisions qui vont sortir des différents États selon qui sera déclaré vainqueur.
Tim, il nous reste deux minutes avec le professeur Colley.
Oui, professeur Colley, on avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation post-électorale ici aux États-Unis, mais les choses pour l'instant sont plutôt calmes.
Absolument, les choses sont très calmes et j'espère que cela va continuer dans ce sens. Et je crois que personne ne gagne à ce qu'il y ait un soulèvement d'un côté ou d'un autre. S'il y a contestation au niveau des élections, il y a un système mis en place par le gouvernement fédéral pour résoudre. Nous nous souvenons très bien de ce qui s'est passé en 2000 entre Al Gore et George Bush Jr. Il y a un recours en justice pour régler les contentieux électoraux. Autant tout le monde pourrait accepter ce phénomène, autant il faudrait faire très attention et éviter de tomber dans une certaine forme de violence qui ne bénéficierait à personne, à mon avis.
Alors, professeur, parlons rapidement du Congrès, parce qu'il a un rôle central à jouer aussi dans la démocratie américaine. Au Sénat, les Républicains gardent leur contrôle, mais à la Chambre, on a noté que les démocrates avaient perdu des sièges.
Oui, mais plus ou moins, ils ont perdu les sièges, mais ils gardent toujours le contrôle. Et ceci va être intéressant, ce qui me fait réfléchir un peu, c'est au niveau du Sénat, où les démocrates ont, jusqu'à aujourd'hui, ont gagné peut-être un siège, ils en ont perdu un. Enfin, ils ont gagné deux, ils ont perdu un. Ce qui fait que l'équilibre est encore en faveur des républicains au niveau du Sénat. Les démocrates gardent la Chambre. Maintenant, le jeu va se jouer au niveau de la Maison-Blanche. Si l'ancien président Joe Biden prend la Maison-Blanche, les démocrates contrôlent la Chambre, on pourrait peut-être trouver un moyen de travailler ensemble. Mais si Donald Trump revient au pouvoir, les républicains contrôlent le Sénat, je crois qu'ils auront l'impression d'avoir maintenant une sorte de mandat pour diriger le pays selon leur programme, qui peut-être n'est pas nécessairement le programme de la majorité des citoyens américains. Parce que, comme vous le savez très bien, un président américain peut être élu à travers les grands électeurs et perdre le vote populaire. Cela s'est passé en 2016, cela s'est passé en 2000. Espérons que peut-être en 2020, nous aurons un scénario relativement différent.
Tim, dernière question.
Oui, alors avec les démocrates en passe de préserver leur contrôle de la Chambre et les républicains en train de maintenir leur mainmise sur le Sénat, est-ce qu'on ne va pas assister à une autre impasse, à d'autres problèmes pour passer des lois en faveur des Américains?
Je pense que sérieusement, c'est un risque, évidemment. Les démocrates pourraient peut-être passer des lois au niveau de la Chambre. Et ces lois seront, si nous avons un scénario qui serait maintenu tel qu'il est, ces lois pourraient être bloquées au niveau du Sénat. Nous avons vu plusieurs aspects de disputes qui n'ont pas été résolus tout simplement parce que les démocrates penchaient d'un côté et les républicains qui contrôlent le Sénat penchaient d'un autre, avec bien entendu l'appui du président Donald Trump. Tout a été bloqué et donc vice-versa. Tout ce que les républicains pourraient vouloir mettre en place comme loi avec l'appui du président pourrait être bloqué au niveau de la Chambre. Et donc, c'est ainsi que devrait fonctionner une démocratie, j'imagine. Mais vu les clivages qui existent dans le système américain, tout sera bloqué. Et donc, impossible de mettre en place un programme qui bénéficierait, n'est-ce pas, l'Américain ordinaire.
Merci, professeur Edgar Colley de Bellingham, dans l'État de Washington, sur la côte ouest des États-Unis. À noter que des milliers de partisans de Joe Biden ont défilé mercredi soir à New York pour demander que tous les bulletins de vote soient comptés, alors que des supporters de Donald Trump manifestaient à Détroit, dans le Michigan, pour exiger au contraire l'arrêt du dépouillement dans cet État-clé.
Rappelons, Idrissa, qu'il y a au centre de cette controverse électorale ici aux États-Unis le vote par correspondance. Mouhamadou Oumfa a joint à ce sujet le professeur Mohamed Mboch, qui enseigne l'histoire au Manhattanville College de New York.
Il y a un facteur qui lie ces trois États et des facteurs qui sont particuliers à chacun. Le premier facteur qui les lie tous, c'est l'avalanche ou la préférence des électeurs de voter par anticipation à travers la poste ou en remplissant des bulletins et les mettre dans des urnes en dehors du jour de vote. Et donc, il faut une certaine manipulation pour ouvrir ces enveloppes, les compter, etc. Et en particulier en Pennsylvanie, qui n'est pas tellement habitué à ce genre d'élection. Pour la Pennsylvanie, un cas particulier, c'est que les lois de cet État stipulent qu'on n'ouvre pas, qu'on ne pousse pas ces enveloppes avant le jour du vote même. Et donc, ça fait un surcroît de travail pour un État qui est très peuplé. Ensuite, les plaintes judiciaires contre le vote par correspondance par les républicains ont beaucoup retardé le processus parce que dès qu'il y a une plainte déposée auprès d'un juge, souvent la première précaution du juge, c'est de dire « arrêtez tout, laissez-moi réfléchir, je vais vous dire ce qu'il faut faire après ». Le Wisconsin a un problème particulier que c'est l'un des États les plus affectés par le COVID. Donc là aussi, beaucoup de gens ont choisi le vote par correspondance. Et là aussi, on se retrouve un peu avec les mêmes effets.
Est-ce qu'il y a un enjeu particulier pour les candidats à remporter ces États?
Oui, ils doivent gagner ces États pour pouvoir espérer gagner. Par exemple, pour Biden, s'il gagne ces États, je pense que ce sera suffisant pour qu'il gagne. Et pour Trump, pour, s'il gagne un de ces États, il créera un obstacle géant en face de Biden que peut-être il sera difficile de surmonter.
Le fait que ces résultats traînent, peut-il être un indicateur favorable pour l'un ou l'autre candidat? On sait par exemple que le président Trump n'était pas très favorable au vote par correspondance.
D'une manière générale, et d'après ce qui s'est passé ailleurs, le vote par correspondance a été plutôt du côté des gens qui sont très soucieux de ne pas attraper le virus et qui surtout étaient mobilisés plutôt pour se débarrasser de Trump. Donc on a l'impression que ce sont plutôt ces gens-là qui ont voté par correspondance en plus grande proportion que les autres. Donc ce qui fait qu'il y a une supposition que ces votes favoriseraient Biden. Trump ajoute l'idée qu'il y a faute et que les gens qui les ouvrent ne rendent pas toujours compte. On ne sait pas trop comment ils manipulent, comment ils comptent ce qu'il y a dans ces enveloppes, etc., etc., etc. Comptant sur le fait que s'il y a peut-être un litige électoral devant la Cour suprême, la Cour va faire comme elle a fait entre Gore et Bush pour dire bon, on cesse de compter et de recompter et de recompter en Floride et où Bush avait été déclaré gagnant et du coup a remporté les élections présidentielles.
L'on constate que les résultats sont en décalage hein, avec les sondages qui annonçaient une large victoire pour le candidat Biden. Comment interprétez-vous cela?
L'une des explications, c'est que lorsque ces sondages ont été menés, beaucoup de ces sondages ont été faits de façon électronique, sur les téléphones portables, sur les computers, etc. Et les vieilles personnes, et en particulier les vieux, disons, d'âge moyen dans la population blanche, ne sont pas toujours des amateurs de ces moyens de communication. Et aussi, il y a une sorte d'hostilité par rapport à ces sondages de la part de ces groupes. Et c'est là où je disais que les Américains sont quelquefois cachetiers. Ils ne disent pas toujours ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils vont faire. Et en particulier lorsqu'ils ont des opinions extrêmes, ils ont peur d'être indexés. Donc, ils préfèrent un peu se cacher et même induire en erreur le sondeur simplement pour s'en débarrasser.
Voilà, c'était le professeur Mohamed Modj du Manhattanville College de New York. Tim, comme on le sait, ce vote par correspondance, le vote anticipé, on n'a jamais vu ce genre de vote atteindre un tel niveau en cette année électorale.
Plus de 100 millions, je crois 102 ou 103 millions d'Américains qui ont choisi ce mode de scrutin pour se prononcer sur la présidentielle. C'est un record historique dans les élections américaines et c'est un record qui devra susciter une réflexion de la part des décideurs politiques ici aux États-Unis qu'ils voient si finalement c'est pas un bon moyen de favoriser la participation aux élections, parce que le taux de participation par le passé a été quand même un problème ici. Et or, cette fois-ci, on a vu un grand engouement pour le vote par anticipé par correspondance ou en personne. Donc, je suis sûr que les républicains, je dis les républicains et les démocrates, tout le monde va se pencher sur ce dossier pour voir comment l'intégrer de façon durable dans la vie politique nationale.
En fait, il y en a déjà qui ont suggéré que l'on déclare jour férié, chômé et payé, en fait, n'est-ce pas le jour de l'élection. Comme ça, on permettra à un plus grand nombre d'Américains de participer un peu plus à l'élection.
Et oui, Idrissa, c'est une particularité américaine, à savoir que le jour de l'élection n'est pas un jour férié, n'est pas un jour chômé. Les gens vont au travail et ensuite vont voter ou bien sortent très tôt pour aller voter avant d'aller au travail. Donc, effectivement, beaucoup d'experts, d'analystes estiment que cela affecte le taux de participation, alors que si c'est un jour férié, tout le monde n'aurait, enfin, personne n'aurait d'excuses pour ne pas aller voter, pour dire, voilà, j'étais au travail ou ceci ou cela.
Merci beaucoup, Tim. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale présidentielle américaine 2020. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia, Timothée Donangmaï, Jean-Roger Bion, et à la mise en onde, George Léonard Sagnot, assisté de Carl Starling. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.